René Bizet, la chambre 16. Ce n'est certes pas en pénétrant dans le café de cet hôtel que je pouvais supposer qu'il m'arriverait pareille histoire. Sans doute n'avais-je pas eu, en descendant du train à Saragosse, une impression très favorable, mais qui donc, voyageant à travers l'Aragon, pendant un mois d'hiver, se sentirait joyeux. Les paysages lunaires qui s'offrent au regard ont une telle désolation qu'on a froid au cœur, et la boue est partout si étendue qu'on craint toujours d'être enseveli dans ce tapis épais, liquide et fangeux où s'enfoncent les pas. Tout cela ne dispose pas l'esprit à la gaieté. L'Èbre roulait une eau jaunâtre, les rues étaient des cloaques, le ciel était gris et navrant. Un voyageur de commerce, j'en étais un, n'a pas besoin, pour visiter sa clientèle, que le ciel soit en fête. Alors j'allais, suivant les indications qui m'avaient été données des confrères, à l'hôtel des Deux Mondes, qui ressemblait à tous les hôtels de toutes les villes de province de France du sud de l'Espagne. On me donna une chambre petite, sans confort, mais propre, ce que j'appréciais par-dessus tout. Et quand j'eus mis de l'ordre dans ma toilette, je descendis dans la rue avec l'intention de flâner un peu. Il y avait 2 mois que je courais les cités d'Espagne, un café si enfumé et bruyant qu'il fût ne me détournait pas, alors des centaines de gens qui ne consomment pendant les heures passées sur les banquettes qu'un modeste café con leche, jouait au domino dans un sourdissant vacarme. Je me résignais à avoir la tête fracassée par ces fanatiques du 6, et après m'être installé dans un coin, avoir commandé un anis, je me mis à lire les journaux dont je m'étais muni. Jusque-là, tout se passait, sinon pour le mieux, du moins normalement. Après 10 minutes de lecture, je levai la tête, et devant moi, je vis un homme étrange, en vérité. Il était devant sa table, seul, et se parlait à soi-même avec volubilité. Il remarqua, à la direction de mes yeux, que je le regardais. Il mit la main devant sa bouche pour dissimuler les mouvements de ses lèvres, mais j'entendais, malgré son geste, son monologue rapide. Il avait une grosse tête ronde, ses joues étaient mal rasées. Il sautillait sur la moleskine, sans pour cela que son bavardage solitaire cessa. Son agitation m'était désagréable. Je me détournais. À ma droite était un personnage fantastique, dont le crâne chauve s'ornait de 3 loupes grosses comme des poings d'enfant. Non, 3 petites têtes, vraiment, jaillies du front, auquel il ne manquait que des yeux, un nez et une bouche. Malgré moi, j'eus un sursaut de recul. Je regardais à ma gauche. Il y avait un aveugle au regard laiteux. Non, décidément, c'en était trop. Je ne pus en supporter davantage. Tout le café me semblait hanté de monstres. Je réglai le prix de ma consommation et revins dans le hall de l'hôtel. Il n'y avait personne. Il était 8h20 à l'horloge. Que faire ? remontai dans ma chambre. J'avais peur, je l'avoue, de me trouver avec mes visions du café, qui n'étaient pas encore effacées. Sortir, mais la pluie redoublait de violence. Quand je me traînais jusqu'à la salle à manger, j'attendrais le dîner dans cette grande pièce qui sentait l'huile, et à la table d'hôte dessinait un étrange rectangle blanc et fleuri de roses de velours râpé. Et c'est là, dans l'ombre de petites tables, dont quelques-unes seulement avaient deux couverts, je m'assis au centre de la table d'hôte, et avant de me mettre à lire de nouveau, je jetais un coup d'œil circulaire, et rien de suspect d'abord. J'en éprouvais du soulagement. Un garçon entra, il se dirigea vers le fond de la pièce. Dans l'ombre, j'aperçus un homme et sa petite fille qui prenaient le repas sans doute avec les autres. Peut-être pouvais-je moi aussi solliciter cette faveur. Et pour éviter au maître d'hôtel des pas inutiles, je me rapprochai des deux dîneurs en faisant savoir que je désirais être servi. « Bien, monsieur !» Et me voilà devant mon assiette, à deux pas de la petite fille et de son compagnon. Naturellement, je les regardais. Il y avait l'aspect d'un paysan, encore qu'il fût, dans sa tenue, quelque raffinement. Il se penchait vers la fillette avec sollicitude. Je devinais son visage glabre, ses traits assez gros, son nez mince surtout, et pointu. Il parlait à la gamme mine d'une voix rude, et la faisait manger. « Attention, tu vas te salir !»« Oh oui, papa !»« Veux-tu du vin ?»« Oui, papa !»« Et du pain ?» On ne mange pas de pain ? Si, papa, si, si. Et l'enfant ne paraissait pas savoir d'autres mots que oui, papa, si, papa. Elle prononçait d'ailleurs sur le même ton aigu et niais. Et cela dura pendant tout le repas, tout le temps qu'on nous passa des plats. As-tu encore faim ?
Oui, papa.
Tu en as assez.
Oui, papa.
J'étais nerveux, évidemment, mais ce dialogue m'exaspérait outre mesure. J'eusse aimé voir le masque de cette petite sotte qui, malheureusement, me tournait le dos. Et quelque effort que je fisse pour essayer de l'examiner de profil, je n'y pouvais parvenir sans exagérer l'indiscrétion. Et déjà, celui que je voyais, que je croyais son père, me dévisageait sans douceur. Décidément, je n'avais pas de chance avec mes voisins de table ou de café. Nous en étions au dessert, je grignotais mes derniers gâteaux quand l'homme se leva. Il prit l'enfant par la main. Il glissèrent derrière moi. Lui marchait à pas mesurés, portant, eût-on dit, la petite à bord de bras pour qu'elle avançât. Je l'ai suivi des yeux attentivement. Elle avait les jambes raides, le buste comme serré dans un corset de fer, et la tête qui ne bougeait pas. « Elle est infirme, cette gamine, » dis-je au garçon quand elle eut disparu. Le serviteur eut un sourire. Monsieur ne s'est aperçu de rien? Mais si, puisque je vous demande si elle est infirme. Non, monsieur, non. C'est une poupée de bois. Le client est un montreur de marionnettes, un peu maniaque. Il a l'habitude d'amener avec lui, à table, cet automate pour lequel il a une affection particulière, parce que c'est son chef-d'œuvre, à ce qu'il dit. Mais elle parle. Non, monsieur, c'est lui qui est ventriloque. Oh, je n'entendis pas davantage. Je me levai, je vacillais sur mes jambes, m'étais givre. Quand je fus remonté dans ma chambre, je remis un peu d'ordre dans mes idées. Au fond, je n'étais pas, m'étais laissé aller à mon imagination. Sans doute bien macabre ce soir-là. Il n'y avait rien de particulièrement extraordinaire dans ce que j'avais vu. Pas plus au café que dans la salle de restaurant. Il est très normal que dans un établissement public se trouve réuni un fou et un monsieur qui a des loupes sur le crâne. Les montreurs de marionnettes ne sont pas des phénomènes. En France, peut-être, cette triple rencontre eût pu me paraître exceptionnelle et justifier mon angoisse, mais en Espagne, y croise-t-on pas, dans les rues les plus luxueuses de Madrid, des mendiants manchots qui jasent en longue théorie? N'avais-je pas vu, sur la route de Rentería, une borgnesse au poignet coupé, grosse de 6 mois? Ne me souvenais-je point de ce matin de Burgos, où sous les arcades de la place voisine de la cathédrale, le tableau des aveugles de Bruegel s'était animé pour moi? N'avais-je pas applaudi 2 ou 3 Espagnols qui montraient les automates avec une virtuosité sombre et passionnée? Alors, pourquoi m'étonnais-je? Pourquoi ce manque de contrôle sur moi-même? Pourquoi cet effroi irraisonné? Je m'obligeais à réfléchir à ce que j'avais vu. Je m'attardais volontairement à penser au personnage qui m'avait fait une impression si vive. Et je remarquais peu à peu, je reprenais tout mon calme. Et quand je me mis au lit, je crois bien que j'esquissais un sourire. Oh, je ne dis pas que vos grimaces ne conviendraient pas mieux. Et je m'endormis tranquillement. Mon sommeil se prolongea certainement fort avant dans la nuit, car lorsque je me réveillais, je ne sais pour quelle raison, je n'entendis pas un bruit ni dans l'hôtel ni dehors. Je tournai le bouton de l'électricité, je regardai ma montre, j'avais oublié de la remonter. « Bien, me dis-je, oh, le garçon doit me réveiller avant 8 heures, je ne peux pas m'inquiéter. » Et j'éteignis la lumière et je me tournai vers le mur. Mais cette fois, ce fut en vain que je m'efforçais de fermer les yeux. Rien pourtant ne me préoccupait, l'esprit, mais je ne pouvais tenir en place. Je me découvrais, puis j'avais froid, j'étouffais, je poussais mon édredon. Oh non, c'était mon oreiller de crin qui grinçait sous ma tête. Soudain, j'entendis très distinctement « Papa, papa ». Cela venait de la chambre voisine. Oh, c'était la voix de la gamine, plutôt du ventriloque, si j'en croyais ce qu'on m'avait dit. Il n'en fallait pas tant pour que je le prêtasse plus dormir et je prêtais l'oreille. « Oh, papa, papa !» Il n'y avait pas d'erreur possible. Ces mots étaient prononcés clairement de l'autre côté de la cloison. À laquelle s'agit mon lit. Je collais mon oreille contre le papier. « Va-tu te taire !» disait la voix de l'homme. « Va-tu te taire ?»«
Oui, papa. »
« Je t'ai vu le regarder, ce monsieur à table. »«
Oui, je t'ai vu. »« Menteuse, méchante gosse, avoue que tu l'as regardé. »«
Oui, papa. »
« Je te tuerai. »«
Oh, papa. »«
Je te tuerai. »«
Papa, papa. »
Quelle était cette ridicule comédie? Le monsieur de marionnette répétait-il une petite pièce? Oh, c'était vraiment bien mal choisi son heure. D'autant plus que la discussion ne cessait point. La grosse voix grondait de plus en plus fort, et la petite voix, qui ne semblait d'abord tout à fait pareille à celle que j'avais entendue pendant le dîner, s'humanisait, si je puis dire, en s'affaiblissant. C'était une petite fille qui gémissait et qui tremblait de peur, mais j'en étais sûr. « Fais ta prière! « Fais ta prière, je te tue. Tu vois ce couteau, c'est pour toi. Saleté, saleté.
Papa !»
Et la plainte était à peine perceptible maintenant. C'était des soupirs, des sanglots que je percevais. Puis ce fut comme un grand coup sur un corps mou. Un coup qui me frappa au cœur, moi, sur mon lit. Et plus rien. J'écoutais, non, plus rien. La nuit, le silence. Je n'avais pas la force de bouger. J'étais entre mes draps, dans un bain de sueur glacée. « Monsieur, il est 8 heures, dit le garçon en frappant à ma porte. Je ne sais quelle miraculeuse volonté me mit debout. La vue du jour, sans doute, et les cris familiers de la rue, et le va-et-vient dans les couloirs de l'hôtel, me firent un réconfort brutal. Je fis ma toilette et m'habillai, sans un souvenir, comme si je sortais d'une longue maladie. Et brusquement, comme j'allais quitter ma chambre, le drame de la nuit assaillit mon esprit. La grosse voix, la petite voix. Je vais te tuer. Et les sanglots et ce coup de cou, surtout sur une chair inerte. C'était un cauchemar, n'est-ce pas? Oh, je n'en parlerais à personne. J'étais stupide avec mes idées. Le soleil entrait dans la pièce, et à côté de mon lit, je voyais maintenant la porte qui communiquait avec la chambre contiguë, la chambre du ventriloque. J'approchai, parbleu, pas un souffle, rien. Je baissai les yeux. Il y avait sous la porte une grande tache de sang qui s'écoulait et s'étalait lentement du parquet vers mon parquet à moi. Lentement. Je descendis l'escalier 4 à 4. J'avisai le patron de l'hôtel qui fit un saut en arrière en me voyant. « Monsieur, monsieur, il y a eu un crime. »« Un crime ou ça ?»«
et dans la chambre 16, à côté de la mienne.
La chambre 16, attendez.
Ah, oh, celle du professeur Languet. Oh, je ne sais pas, celle du ventriloque, mais où est-il, cet individu?
Le professeur Languet, mais monsieur, il est à 2 heures, il est parti pour les Ridas.
Et sa petite fille, celle qui était hier à table le soir avec lui, ah, sa poupée, oh, elle était dans sa malle, comme d'habitude.
Vous en êtes certain?
Mais enfin, monsieur, voilà 20 ans que le professeur Barrière honore ma maison de sa confiance. Et il y a du sang dans sa chambre, le sang coule dans la mienne, je vous jure. Cet homme tue les enfants, qu'il fait passer pour des marionnettes. Vous n'y voyez rien.
Et vous, monsieur, me dit le patron, d'un ton sévère, vous le voyez trop. Mon hôtel est bien connu dans toute l'Espagne pour sa bonne tenue. Je pourrais de ne pas nuire à son excellente réputation. Si vous n'êtes pas satisfait ici, ben allez ailleurs. Saragosse non plus ne me retint pas. Je quittai la ville dans la matinée.